Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Jérôme Garcin, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Gallimard un nouveau livre dont le titre est « Le dernier hiver du Cid ». Alors, vous présentez, est-ce encore nécessaire? Vous êtes journaliste, écrivain, vous dirigez le service culturel du Nouvel Observateur, vous produisez et animez le Masque et la Plume, une émission mythique sur France Inter. Et donc ce livre, Le dernier hiver du Cid, qui paraît chez Gallimard, est-ce que vous pouvez nous en éclairer le titre?
Oh ben c'est très simple, ce sont les derniers instants de ce comédien qui a été enterré dans le costume du Cid et qui a incarné ce rôle légendaire pour l'éternité. C'est Gérard Philippe qui a joué à la demande de Villars pour le TNP ce rôle de Rodrigue qu'il avait, si on en juge en tout cas par les enregistrements sonores qu'on a, qui avait révolutionné ce personnage, sans doute en l'humanisant, en le rajeunissant. Et c'est donc dans ce costume que d'un rôle qu'il avait joué des centaines de fois, aussi bien à Avignon, dans la cour d'honneur, à Chaillot et dans le monde entier, puisque c'était beaucoup en tournée avec le TNP, c'est donc dans ce costume qu'il a été enterré dans le cimetière de Ramatuelle. Donc le dernier hiver, pourquoi le dernier hiver? Parce que ce sont de l'été 59 jusqu'au 28 novembre 59, l'hiver d'une jeune vie, la fin d'une très jeune vie, puisqu'il n'avait pas encore 37 ans quand il est mort.
Alors, on dit qu'il a eu une maladie dans le foie, une amibe qu'il aurait contractée lorsqu'il tournait un film avec Buñuel. Mais qu'en est-il exactement? Est-ce que ça fait partie de la légende ou est-ce que précisément c'était ça?
Il n'y a pas de légende, on est devant des faits très précis, je dirais même médicalement incontestables, c'est-à-dire qu'effectivement il revenait d'un tournage qui est le tournage du film de Buñuel, la fièvre monte à El Pao au Mexique, qu'il avait fait un détour par Cuba et donc l'été 59 il est revenu dans sa maison de Ramatuelle avec sa femme Anne et leurs enfants, Anne-Marie et Olivier, et il a eu des douleurs abdominales qui ont été effectivement mises sur le compte d'amibes, et les médecins, son médecin, a imaginé et même pronostiqué un abcès amibien, et puis il a fallu qu'il subisse une intervention tout début novembre 59 pour que son médecin, François de Godard-Dalène, découvre à ce moment-là qu'en fait d'amibe, il s'agissait d'un cancer primaire du foie, d'un type assez particulier et qui va à une vitesse foudroyante emporter le comédien, l'acteur, en quelques jours, puisqu'il il s'est éteint le 25 novembre, c'est-à-dire même pas 10 jours après l'intervention chirurgicale.
Où est-il enterré ?
Il est enterré dans le cimetière de Ramatuelle. Ramatuelle, il faut expliquer peut-être à vos auditeurs que c'était une ancienne ferme au milieu des vignes et des vallons dans le Var, donc ferme qui appartenait aux parents de sa femme, d'Anne Philippe, à l'époque Navo, puisqu'elle s'appelait pas, enfin Fourcade, son premier mari, et Navo, son nom de jeune fille. Et c'est un jour, en tournant un film à la Victorine, à Nice, que Anne a montré cette vieille bâtisse en pleine campagne à son mari, à Gérard Philippe, et qui sont tombés tous les deux amoureux ensemble de cet endroit, de cette région, et de cette vieille ferme que Gérard Philippe, qui était un manuel autant qu'un comédien, a en partie retapé de ses propres mains, refaçonné à sa manière. Et donc c'est dans cette maison où ils avaient été si heureux que Gérard a choisi de reposer.
Alors comment a-t-il appris, est-ce qu'on lui a appris la gravité de son mal, quel a été le rôle de son épouse? Il ne savait pas l'ampleur de sa maladie, et qu'il avait en tête plein de projets, mais une foi en son avenir et un goût de création singulier.
C'est-à-dire que le jour de l'intervention, le médecin a révélé dans une pièce toute proche du bloc opératoire, a révélé à Anne Philippe, à sa femme, l'étendue du mal et surtout la condamnation que cela supposait, condamnation qui variait entre quelques jours et quelques semaines, mais pas tellement plus. Et là, effectivement, d'ailleurs, Anne le raconte dans ce livre admirable qu'elle a publié dans les années 60, qui s'appelait « Le temps d'un soupir », Anne a pris la décision avec ce médecin de ne pas dire la vérité pour l'épargner, la vérité à Gérard Philippe. Ce qui fait que dans les jours qui ont suivi, quand il est rentré chez lui au 17 rue de Tournon, à Paris, il a effectivement, comme vous le dites, il a rêvé ce que pourrait être croyant indemne. Il a pu rêver et croire qu'il aurait un avenir, notamment au théâtre. Et là, il s'est mis à lire de manière presque compulsive les tragédies grecques, à annoter des rôles, des textes, des phrases, des dialogues, de pièces qu'il aurait aimé jouer ou mettre en scène. Il a pensé à différents personnages qu'il aurait voulu incarner sur scène. Ça va de Hamlet, qu'il rêvait de jouer, jusqu'au Dorande du menteur de Corneille, en passant même, parce que c'était une idée de Villard, de Jean Villard, pensant même au personnage mythique de Don Juan. Bref, on peut considérer effectivement que cet homme qui allait mourir précipitamment a eu le temps de rêver une vie d'après. Mais on peut aussi considérer, et c'est pour moi d'ailleurs une preuve supplémentaire de l'amour fou qui unissait Anne et Gérard, on peut aussi penser que de la même manière que Anne avait caché la vérité à Gérard, que Gérard, qui pressentait peut-être que sa vie que sa fin était proche, a peut-être voulu épargner aussi sa femme et ne pas lui dire la vérité sur ce qu'il pressentait. Et là, on a, quelle que soit en tout cas l'hypothèse, on a l'image d'un couple parfait, et on a la trace, effectivement, on l'a à la maison, hein, de ces textes que Gérard a annotés, avec parfois même dans les marges des phrases comme « pour moi dans 20 ans » ou « pour moi dans 10 ans ». Donc, il a malgré tout pensé qu'il y aurait une vie après la vie au théâtre.
Alors, dans ce livre, avec très, très sensible, très bien écrit, que vous venez de publier aux éditions Gallimard, « Le dernier hiver du Cid », vous retracez moment par moment entre le mois d'août 1959 et le 28 novembre 1959. Comment avez-vous trouvé tous ces détails? Jusqu'à présent, il est inoubliable. Vous nous direz aussi comment se fait-il que sans une iconographie très importante. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Parce qu'il n'y a pas de traces du, pratiquement du film, de la pièce de théâtre du Cid. Comment est-ce que les gens continuent à lui vouer cet amour et ce culte?
J'ai, depuis mon premier livre, depuis Pour Jean Prévost, il y a 25 ans, toujours consacré la plupart de mes livres, récits ou romans à des vies brèves, dont je veux croire qu'elles sont même brèves, pleines, en tout cas qu'elles ont un sens. Et c'est vrai que des résistants Jean Prévost à l'aveugle Jacques Lucéran, en passant par mes propres frères et pères, mon frère jumeau qui est mort renversé par une voiture à 6 ans, mon père mort d'une chute de cheval à 45 ans, j'ai toujours consacré effectivement mes livres à des vies brèves, et il me semblait que celle-là était peut-être le point culminant de cette galerie de jeunes vies souvent fauchées dans la fleur de l'âge. Et simplement, j'ai attendu pour des raisons qui sont simples et, je dirais, presque de l'ordre de la pudeur. Il se trouve que j'ai épousé la fille du Cid, Anne-Marie Philippe, la comédienne, que j'ai connue, Anne-Philippe, avant même de connaître ma future femme. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai baigné dans cette famille, dans ces lieux, que ce soit la Roulière à Ramatuelle, le 17 rue de Tournon, où Anne a reçu autrefois le jeune homme que j'étais. J'ai attendu d'avoir peut-être aussi l'autorisation de ma femme, que je ne voulais pas écrire ce livre sur son père sans qu'elle soit d'accord. Et elle l'a même souhaité, donc je l'ai écrit. Considérant que c'était un peu, je vous le dis, le point d'orgue de cette succession de vies brèves dont je me sens un peu le chroniqueur. Comment je l'ai écrit, je viens un peu de vous répondre, puisque en fait, ayant passé tant de temps rue de Tournon, où l'appartement n'avait pas changé, de la moquette jusqu'au lit, depuis la mort de Gérard Philippe, à la Roulière où nos enfants, Anne-Marie et à moi, ont grandi, et souvent sous les épaules d'Anne-Philippe. Évidemment, ces lieux me permettent de décrire très précisément, en tout cas pour ce qui est du décor, les semaines qui séparent l'été 59 de la mort en novembre 59 de Gérard Philippe. Il faut ajouter que, évidemment, pendant toutes ces années, j'ai rencontré, vécu, parlé avec tous ceux qui étaient les proches de Gérard, à commencer par son médecin le plus proche qui était l'accoucheur Pierre Velay, dont je parle beaucoup dans ce livre. Il se trouve que Pierre Velay, par exemple, a mis au monde les enfants d'Anne et Gérard, Olivier et Anne-Marie, mais aussi nos propres enfants, nos trois enfants, que le couple René-Claire, Brogna-Claire, effectivement, faisait partie de ces gens que nous voyons très souvent. Bref, j'avais tout ce qu'il fallait, et il faut enfin ajouter la figure très importante dans le livre aussi, et dans la vie réelle, de ce chirurgien, François de Goudard-Alène, qui a pratiqué l'intervention. Sans pouvoir opérer donc ce cancer fatal. Et il se trouve que ce médecin, c'était mon grand-oncle. Donc c'est pour vous dire que ça a ajouté au texte, notamment les tragédies grecques annotées que nous avons à la maison de la main de Gérard. Tout ça me permettait de faire un livre que je voulais le plus sobre, le plus précis possible. Le numéro de téléphone de l'époque de la rue de Tournon, c'est le bon. Le numéro de la plaque minéralogique du Corbillard qui emmène le corps du Cid à Ramatuelle, c'est le bon. Je voulais être le plus précis, même si j'ai bien été obligé aussi un peu d'inventer, puisque la clinique Violet, où il a été dans le 15e arrondissement à Paris, où il a été hospitalisé et opéré, cette clinique a disparu, que moi je n'étais pas dans la tête, évidemment, ni de Gérard, ni de ses proches, dans les jours fatidiques d'octobre-novembre 59. Donc, j'étais obligé de parfois de faire ce qu'on appelle au sens littéral du terme de la fiction, du roman. Mais ça repose sur des faits, les lettres avec Georges Perros, même les textes, puisque Gérard Philippe a laissé des quelques pages de carnets intimes, tout cela est tout à fait authentique et évidemment je disposais mieux qu'un autre de documents de première main, puisque ce sont ceux de la famille qui est devenue la mienne depuis Anne-Philippe jusqu'à Anne-Marie.
Alors, comment expliquer la ferveur, l'amour que nous portons toujours à ce visage tellement gracieux de Gérard Philippe ?
Vous avez rappelé une chose importante, c'est qu'effectivement, la manière d'accéder à l'œuvre artistique de Gérard Philippe relève du chemin de croix, puisque les pièces n'ont pas été captées, pas plus le site que Hombourg, Ruy Blas ou Lorenzaccio. Pourquoi ? Parce que Villard ne voulait pas qu'on capte les pièces. Il pensait, il croyait, il voulait que ce soit des pièces réservées à des spectateurs et qu'on n'enferme pas les pièces dans des boîtes. Et donc, on dispose de quelques enregistrements, qui sont pas fameux d'ailleurs, des pièces, mais aucune image. Et on ne peut pas voir aujourd'hui le Cid ou Lorenzo sur un écran parce que ça n'existe pas. Les films, Gérard Philippe a joué dans une trentaine de films, c'est énorme quand on pense à sa jeunesse. Et ces films-là, certains parfois repassent, Les Orgueilleux de temps en temps repassent, mais la plupart ne sont plus visibles. La télé a cessé de diffuser les films de René Clair, de Marcel Carnet ou de Autant Lara parce qu'elle elle n'a pas le souci tellement de la mémoire cinématographique, donc c'est difficile. Il reste quelques enregistrements qui peuvent expliquer un peu la pérennité de son personnage, c'est-à-dire les enregistrements audio du Petit Prince et de Pierre et le Loup, qui continuent à avoir beaucoup de succès. Mais c'est vrai que l'œuvre théâtrale et cinématographique de Gérard Philippe est très très difficile à connaître pour la jeune génération aujourd'hui en 2019. Cela dit, je pense que si sa légende perdure, comme vous dites, alors c'est d'abord parce qu'évidemment dans ce pays on ne compte plus les lieux qui portent le nom de Gérard Philippe, les rues, les centres dramatiques, les écoles, les collèges Gérard Philippe. Bon, mais derrière tout ça, il y a évidemment ce qui, à mon avis, explique d'abord la longévité de sa légende, c'est sa jeunesse. Un artiste, un acteur, mais c'est vrai aussi des poètes, c'est vrai aussi des peintres qui meurent très jeunes, encore une fois 36 ans pour Gérard Philippe, c'est un supplément de scandale, parce que c'est toujours insupportable d'imaginer qu'un tel talent est fauché si jeune, mais en même temps ça leur assure aussi une forme de jeunesse éternelle. Je pense que pour ceux qui ne l'ont pas oublié aujourd'hui, il reste ce jeune prodige de la scène et de l'écran qui a, je dirais, 36 ans pour l'éternité. Et puis, il y a une seconde chose qui, à mon avis, est très importante pour expliquer sa présence encore aujourd'hui. Je vous rappelle que le 25 novembre dernier, c'était les 60 ans, donc exactement de sa disparition. C'est aussi la figure politique et sociale qu'il a incarné. Il faut rappeler que Gérard Philippe était un comédien engagé, militant du mouvement de la paix, c'est-à-dire contre l'usage de la bombe atomique, qu'il avait fondé, créé le premier syndicat des acteurs, le syndicat français des acteurs, à qui on doit l'établissement du statut d'intermittent du spectacle, qui prévaut toujours aujourd'hui, qu'il était compagnon de route. Il n'était pas communiste, mais compagnon de route, et donc il était en faveur d'une gauche assez radicale pour l'époque et encore aujourd'hui. Et je pense que ce personnage de grand comédien à l'époque, dont la notoriété était mondiale, hein. Il faut essayer d'imaginer ce qu'était la notoriété le jour de sa mort de Gérard Philippe. C'était une perte pour presque pour tous les continents et tous les pays. Mais c'était aussi la disparition d'un jeune homme qui avait plus le souci des autres que de lui-même, ce qui est inimaginable pour une telle vedette, et qui n'avait travaillé qu'à, notamment pour le théâtre avec le TNP de Villars, qu'à offrir les plus beaux textes au plus grand nombre, et d'abord aux spectateurs les plus défavorisés, ceux qui n'ont pas accès naturellement à la culture et au théâtre. Et donc je pense que ça aussi, ça explique la pérennité de sa légende, c'est-à-dire que c'était pas une vedette pour magazines et papier glacé, c'était un homme ancré dans la vie réelle, ancré dans la société, avec des idées qui étaient celles de la bienveillance, de la solidarité, de la fraternité. Je vous rappelle là encore qu'au TNP, sur ces affiches du TNP, alors que c'était la star que je viens de vous dire, eh bien son nom était dans le même corps et que les autres camarades, placé par ordre alphabétique, et que son cachet de comédien, fût-ce pour un premier rôle, Rodrigue ou Lorenzo, son cachet était le même que celui de ses camarades de plateau. Tout cela forge forcément une légende qui est vouée à survivre à sa propre existence. Et je crois que tout ça explique le fait que pour les 60 ans, que d'ailleurs les institutions de ce pays ont un peu oublié de célébrer, eh bien que malgré tout, si j'en juge par tous les témoignages que je ne cesse de recevoir depuis l'apparition de mon livre, cette légende-là, eh bien, elle demeure et elle est encore très solide.
Jérôme Garcin, vous avez dit que sa mort fut vraiment un événement planétaire, qu'elle a sidéré le monde entier. Il y a des clubs de fans qui existent au Japon, et puis des quarts entiers qui viennent pèleriner son souvenir à Ramatuelle. Pourquoi le Japon ?
Ah ben ce que vous dites là à l'instant du Japon est vrai, il y a des fan clubs, allusion à Fanfan la Tulipe, au Japon, mais vous en trouvez aussi en Russie, vous en trouvez aussi en Amérique latine. Il se trouve qu'il a fait il a fait beaucoup de tournées dans l'Est à l'époque, dans les pays de l'Est, époque guerre froide, qui lui a valu un statut d'icône, mais il a aussi fait des tournées au Japon, où Fanfan la Tulipe a été, je crois, le film le plus vu par les Japonais. Ces clubs de fans qui survivent 60 ans après, vous les trouvez évidemment au Japon, mais aussi, je vous dis, dans les anciens pays de l'Empire soviétique, aussi bien qu'au Brésil ou au Chili.
Alors, vous avez parlé de témoignages. Quels sont ceux qui vous ont le plus touché à la suite donc de l'écriture de ce livre sur Gérard Philippe, sur la fin de Gérard Philippe ?
Oh ben moi, ce qui me touche le plus, c'est ce que je ne cesse de recevoir, c'est-à-dire des témoignages de parce qu'il en reste beaucoup, plus qu'on ne l'imagine, de spectateurs d'Avignon ou de Chaillot, c'est-à-dire les fidèles du TNP de Jean Villard, qui ont vu mon beau-père dans ses différents et ses plus grands rôles. Donc il y en a beaucoup. Et puis vous avez aussi beaucoup d'enfants et de petits-enfants de ces spectateurs d'Avignon et de Chaillot qui continue pour les raisons que je vous ai dites auparavant, c'est-à-dire essentiellement d'ailleurs artistique et politique, à cultiver la mémoire de Gérard Philippe. Donc, mais c'est vrai que le plus émouvant, ce sont ceux qui ont vu ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis né en 56, donc trop jeune pour l'avoir vu au théâtre, qui ont pu voir ce que la mémoire audiovisuelle ne peut pas nous offrir, c'est-à-dire voilà, Gérard Philippe dans son costume du Cid sur la scène d'Avignon à ciel ouvert, ou dans son costume de Lorenzaccio à Chaillot. Et c'est vrai que ces témoignages me permettent de maintenant d'avoir la preuve que, contrairement à ce que je pouvais craindre, eh bien, il n'a pas été du tout oublié.
Jérôme Garcin, je vous remercie beaucoup de nous avoir présenté ce livre très touchant, je pourrais même dire incandescent, sur Gérard Philippe, et que son image d'éternel jeune homme, gracieux, tellement charmant, tellement tendre, angélique, quelque part, persiste et qu'il est inoubliable. Merci beaucoup.
Et merci à vous.
Au plaisir de vous lire une autre fois. Merci.
Merci et bonne soirée.
À vous aussi, monsieur.
Au revoir.
Au revoir. Alain Barrière, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Alain Barrière, c'est le mythique, le légendaire Alain Barrière, le chanteur, le poète. Alain Barrière, vous venez de faire paraître aux éditions du Rocher une autobiographie, Ma vie. Alors, Ma vie, c'est le nom d'une chanson, c'est le nom d'un livre, c'est tout un programme. C'est une des vies les plus tourmentées du showbiz.
Oui, sans doute. Sans doute, j'ai mis un certain temps à m'habituer à ce destin qui a fait avec des hauts et des bas. Et un jour, je me suis dit que c'était mon destin, qu'il fallait pas trop m'en faire et trop accorder d'importance aussi bien aux hauts qu'aux bas, que période difficile. Mais c'est vrai que, j'avais pas vraiment souhaité ça, quoi. C'est un destin, je crois, mais c'est un destin assez difficile à assumer, oui.
Alors, parlez-nous des grands moments, des grandes articulations. On va déjà évoquer cette enfance à Trinité-sur-Mer, dans le dénuement, et puis le fait, après tant d'opiniâtreté, être admis à l'École nationale supérieure des ingénieurs des arts et métiers d'Angers. Ça, c'est extraordinaire. Ça prouve déjà votre vitalité, votre acharnement et votre talent.
C'était, oui, le mot m'était, comment dirais-je, était curieux, voulait connaître, parce qu'a priori, quoi, j'aurais dû devenir pêcheur, mécanicien, un petit peu comme tous les jeunes de mes copains de mon enfance. Il y en a même qui étaient dans l'enseignement, quand même, donc on commence à être une génération de jeunes de cette époque en Bretagne qui commençaient à montrer le bout du nez, parce qu'avant, vous savez, c'était extrêmement court. Je crois qu'avant les années 40, il y avait 3% d'enfants bretons qui dépassaient le certificat d'études. Donc, on n'était pas logé aux meilleures places pour l'éducation, si j'ose dire. Mais là, donc, il s'était passé une petite révolution qui fait qu'on a commencé à pointer le bout du nez. Et puis, j'ai eu la chance d'être emporté par cette vague-là. Et puis, de réussir à rentrer d'abord au Collège de l'Orient, ensuite au Collège Chevrolier d'Angers, puis aux Arts et Métiers. Pour moi, c'était une victoire extraordinaire. Je voulais ou devenir pilote d'avion, ou devenir ingénieur. Alors, j'ai fait une visite des yeux pour les pilotes d'avion. J'avais une petite faiblesse à un œil, pareil. Donc, je suis devenu ingénieur.
Alors, il y a la chanson. Comment est-ce que la chanson s'est greffée sur un brillant ingénieur? Et on parlera aussi du foot. On parlera de toutes ces passions qui ont fait que vous êtes un homme plein d'envie de vivre à tous les moments, quels que soient les coups du destin.
Bien sûr, on peut parler de ma passion. D'abord, j'étais sportif, c'est vrai. Je faisais à la fois du 100 mètres, du 4x100 mètres et du football, bien sûr, plein de football. Mais ma passion à la chanson, comment c'est venu à la chanson? Alors là, c'est vraiment un miracle. Disons que Quand j'ai eu, disons, 14-15 ans, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'accroche moi-même si je voulais décrocher la timbale, si je voulais devenir quelqu'un. Donc là, j'ai baissé la tête, si vous voulez, puis j'ai pas regardé ni à gauche ni à droite, j'ai pas lu de poésie, j'ai bossé, parce que j'avais du retard quand même. J'avais commencé pour être, pour vous savez, pour faire enfin devenir de BEI, ce qu'on appelait le BEI, c'est-à-dire brevet industriel. Vous savez. Bon, donc j'avais du retard pour accéder au haut niveau, et donc j'ai beaucoup foncé devant sans regarder à gauche à droite, sans lire trop de littérature, des choses comme ça, et puis comme un effet boomerang, c'est venu après. J'ai découvert la poésie en quatrième année des arts et métiers. Là, le premier livre de poésie, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot poésie? Et alors, bon, bah, ça a été Rimbaud, ça a été Verlaine, ça a été tous les grands poètes, Paul Fort, Carco, et puis tous les étrangers aussi. Donc, ça a été un déferlement sur ma vie. C'était très secret au début, évidemment, hein, cet amour de la poésie. Et puis, curieusement, quoi, la musique, elle était là. La musique, elle était là déjà. Bon, je suis un peu d'origine du Sud. Hein. Mon père était d'origine italienne, donc il n'y a pas de problème. Donc ça s'est retrouvé, si vous voulez, dans ma musique, ça. Et la poésie en plus. Alors là, je me suis mis à écrire tout simplement des chansons, au début sans aucune prétention. Et puis en 62, 63, il y a eu des chansons comme « Plus je t'entends », hein, comme « Elle était si jolie ». Là, c'était difficile à éviter.
Alors, votre carrière démarre en 61 au sommet des hit-parades et puis à contre-courant des modes yéyé.
61, ouais, c'était un petit peu léger, 61, quand même. C'était juste Cathy, c'était des petites chansons comme ça. Mais après, aussi bien avec Plus je t'entends qu'avec Elle était si jolie, c'est vrai que j'étais le chanteur romantique, quoi. Et ce qui marchait à l'époque, c'était Johnny, c'était les chats sauvages, c'était Eddie Mitchell, c'était ces choses-là, ces choses qui nous venaient d'Amérique, là. Et moi, j'étais vraiment complètement à contre-courant, mais j'étais pas malheureux du tout. J'étais bien dans mon petit coin en chanteur romantique. J'étais le jeune héros romantique qui se pointait, qui gardait sa petite place. Là. J'étais très bien, j'étais à l'ombre des yéyés. Et puis est arrivée ma vie, alors où j'ai laissé pas mal de yéyés derrière. Et puis j'ai continué ma carrière en chanson.
Vos influences en chanson?
C'est du mal, j'en ai pas vraiment, je crois. Je crois que mes influences, c'est la poésie, ce sont les poètes et ce sont les grands musiciens. J'ai commencé à découvrir comment on écrivait une mélodie, parce que le début de mélodie, c'est assez simple, hein, quelquefois, mais après, il faut la développer, la mélodie. Et c'est en écoutant Beethoven, c'est en écoutant Mozart, c'est en écoutant les grands, Handel et d'autres, que j'ai découvert comment on construisait une mélodie. Bien sûr, c'est important d'avoir écouté Brassens, d'avoir écouté Trenet, d'avoir vu comment il se débrouillait pour écrire des chansons, mais j'ai assez vite dépassé ce stade-là pour essayer d'aller un petit peu plus loin, et puis surtout de faire en sorte qu'il y ait une harmonie beaucoup plus importante entre la musique et les paroles, quoi. Moi, je crois que si j'ai apporté quelque chose d'un peu exceptionnel en chanson, c'est ça. C'est cette osmose que je mettais toujours entre les paroles et la musique, que j'ai eu la chance de mettre, parce que c'est pas évident, quoi. Quelquefois, on sent, si vous voulez, le dur labeur. Hein. Il y a une belle mélodie, mais vous sentez que c'était les paroles, c'était du gros travail. On a beaucoup travaillé sur les dictionnaires. Mais moi, j'avais cette chance inouïe de trouver les mots qui collaient avec la musique. Et je crois que ça a été mon apport à moi en chanson.
Auteur, compositeur, interprète.
Tout à fait, complètement. Donc, l'instrument, c'était la voix. Hein. Et les musiques normalement venaient avec les paroles, généralement, presque toujours. Mais attends, je ne veux pas négliger la part de travail quand même. Hein. C'est aussi du travail, mais c'est pas du travail d'acharnement. C'est pas du travail.
C'est pas du labeur.
Voilà, c'est se mettre. Par contre, c'est se mettre, c'est intérioriser beaucoup. C'est laisser travailler maturer la chanson et l'œuvre, si vous voulez, à l'intérieur, et puis ne pas attendre que cela se fasse et que cela vienne naturellement, quoi.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé après?
Après, ben, j'ai fait donc ma vie, j'ai fait ma vie. Ma vie, ça a été un énorme succès. Hein. C'est un très 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 beau succès, presque partout dans le monde, sauf peut-être aux États-Unis, parce que les États-Unis sont pas très gentils avec la chanson française. Quand ils peuvent les garder au fond des tiroirs, ils ne manquent pas de le faire. Mais dans beaucoup de pays du monde, ça a été un énorme succès. Et donc j'ai gagné pas mal d'argent. Et puis, comme l'argent pour moi, ça n'était qu'un moyen. C'est un moyen de me réaliser. L'ingénieur est revenu à la surface. Et l'ingénieur, il a voulu construire. Il a voulu construire son château. Et comme j'adorais ma Bretagne et ses vieilles pierres, j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer en vieilles pierres, en vieilles ouvertures, en tout ça. Et j'ai créé un complexe, enfin le cœur d'un complexe qui s'appelle le Styrouen et que j'ai construit. Quoi. C'est bon, l'ingénieur s'est réalisé. Il était tout heureux de faire ça aussi. Et puis, d'autant plus que là, c'est à tout moment où j'ai fait Tu t'en vas, qui est devenu un énorme succès, qui était un énorme succès. En Allemagne aussi, il était numéro 1, numéro 2 en Allemagne, numéro 1, numéro 2 au Brésil, c'était formidable ça. Mais enfin bon, Tu t'en vas m'a permis de finir mon œuvre de Styrouen, de finir la construction qui évidemment a coûté deux ou trois fois plus cher que ça avait été prévu. Et là, il s'est passé que j'ai déclenché des jalousies féroces. Il y a des gens qui ont absolument voulu et ma peau. Et comment dirais-je, me piquer mon Styrouen, évidemment. Ça se marchait très bien à l'époque. Je sais pas, c'est des gens s'en souviennent sûrement dans les années 70. Les tribunaux de commerce liquidaient facilement des choses. On écartait facilement des créateurs pour vendre pour 3 sous les œuvres à des gens qui étaient là pour récupérer les choses, quoi. Donc j'ai failli être passé à cette moulinette là, mais je me suis battu et puis on m'a tout fait pour me faire perdre pied à ce moment-là. Et là, ça a duré 25 ans.
Alors, vous avez aussi écrit des textes sur les dérives du nucléaire, vous avez écrit sur l'écologie, sur les guerres, sur la technocratie. Vous menez un vrai combat contre les inepties du monde moderne.
Tout à fait. Je crois que je suis... les bras m'en tombent de constater qu'en France, quoi, on ne puisse pas trouver une solution. Il faut qu'on sorte de ce déficit-là. Il faut qu'on sorte. Ce pays est en marche arrière. Je le sens comme ça. Vous savez, j'ai toujours eu le tort d'avoir raison trop tôt, comme tous ces gens qui quand j'ai commencé à écrire des chansons écolo et à chanter des chansons écologistes en 1970. C'était beaucoup trop tôt. À cette époque-là, ça ne gênait personne, l'écologie, les rivières empoisonnées. On me dit que de quoi ils nous embêtent avec ça, le CO2, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et aujourd'hui, 35 ans après, on se rend compte que c'est quand même pas de la rigolade, quoi. Donc c'est vrai que j'avais une certaine préscience du danger qui guette la planète. Et je l'ai dit, je l'ai crié, mais évidemment j'ai attaqué aussi le nucléaire, parce que le nucléaire est aussi extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Donc, bon, il n'y a peut-être pas de solution, il y a peut-être des solutions, mais on ne les a pas vraiment cherchées. Et donc, j'ai dû constater ça et je l'ai dit, quoi. Donc, je ne me suis pas fait que des amis. J'ai même écrit une lettre ouverte à un président de la République en chanson contre le nucléaire. C'était qu'il n'avait pas le droit, lui, de décider tout seul pour nos enfants ce qu'il fallait faire du nucléaire. Et pourtant, il a décidé tout seul. Mais je ne sais pas s'il a lu cette lettre ou s'il l'a écoutée, mais bon, je l'ai fait. Et je sais que, comme c'est jamais passé en radio, très bien que ça a dû être évidemment certainement jeté aux oubliettes pour que personne n'en entende parler.
Alors, vous avez subi des tracasseries administratives, des agressions à main armée, des cambriolages, et puis on peut dire entre guillemets un assassinat fiscal, et vous vous êtes exilé de temps en temps au Canada et aux USA. Dites-nous un mot de cette période.
C'était une période très difficile parce que je sentais bien que ma présence n'était pas tellement désirée en France. Ma présence, et donc j'ai pris mon épouse sous le bras et puis on est parti à Los Angeles. Elle adorait danser, Agnès. Donc on voulait aussi lancer le Styrouen, donc animer les étés du Styrouen. Donc Agnès adorait la création sur scène, tout ça. Donc elle a appris beaucoup à danser à Los Angeles. C'était une très bonne chose. Donc on a passé 3 ans là-bas. Et puis on est revenu parce qu'on sentait bien qu'il fallait qu'on résolve nos problèmes en France. Et puis les problèmes ne se résolvaient pas. Il y avait manifestement une volonté de nous tenir sous la patte du, du gros chat noir. Et comment dirais-je, donc on est reparti une autre fois encore pour en exil au Québec, cette fois, pour 3 années. C'était juste avant que je vienne crier à la télévision pour cette fameuse émission de Sacrée Soirée. Et puis là, bon, je me suis dit, là, il faut qu'on revienne, quoi, parce qu'il faut régler vraiment le problème. Et puis, bon, je voulais, à force de me piquer tout ce que je pouvais gagner comme argent, la dette, c'était quand même la dette, si je ne la reconnaissais pas, la dette qu'il m'avait créée de façon factice, elle avait fini par diminuer. Et il est venu un jour où il était quand même relativement facile de trouver des accords. Ces accords qui étaient impossibles des années durant, tout d'un coup, on est tombé sur un inspecteur où il était pas au courant, ou bien il était un petit peu écœuré de ce qu'on m'avait fait, on ne saura jamais trop. Mais donc, j'ai signé des accords, enfin j'avais retrouvé ma liberté. Mais c'était très dur, c'était vraiment trop dur. Parce que quand on vous traite comme un mineur devant la loi, alors que vous êtes quand même une vedette internationale, ça fait quand même très mal.
Alors, qu'est-ce que c'était exactement que le Sirouen ? Qu'est-il devenu ?
Le Sirouen existe toujours, c'est un gros bâtiment en pierre, vous savez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, ce que je souhaitais, c'est en faire le cœur. Il y a un amphithéâtre, il y a une grande salle de restaurant pour les mariages, des choses comme ça, des célébrations, toutes sortes. Mais ce que je voulais faire, c'est tout autour un village, avec une certaine mentalité de gens, trouver des gens qui, pour essayer d'établir une qualité de vie et une qualité de penser aussi. Je suis pas un gourou, je suis pas. Ça va pas si loin que ça, mais j'aurais beaucoup aimé créer une sorte de village. Et puis j'étais très branché biomagnétisme aussi, parce que je me suis rendu compte un jour que j'avais du magnétisme dans les mains et que le biomagnétisme pouvait beaucoup aider. Des petites choses, hein, c'est pas des grandes choses, mais ça remet beaucoup de choses en place, et en particulier au niveau des problèmes du dos. Les problèmes du dos sont très faciles à résoudre. Enfin, très faciles. N'exagérons rien, mais disons qu'on aide beaucoup. Parce que quand un dos, et c'est si vous voulez, comme quand les vertèbres partent en vrille, si on ne répare pas tout de suite, ça peut être une catastrophe quelques années après. Et je savais que par magnétisme, on pouvait beaucoup arranger ça, par exemple. Mais aussi des problèmes d'articulation s'arrangent aussi très bien par magnétisme. Donc je voulais essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Et j'ai malheureusement pas pu, puisqu'on m'en a empêché, quoi.
Alors, comment vivez-vous maintenant ? Il y a donc la parution de ce livre, très bien écrit et d'une grande justesse de ton, qui vous fait honneur. Et on apprend et on voit qu'il y a un attachement du public qui ne vous oublie pas.
Je crois que ce livre, justement, je ne m'attendais pas du tout. Enfin, je ne m'attendais pas du tout. Peut-être quand même, je le sentais, je le pressentais, mais ce livre a libéré les gens. C'est qui m'ont dit... Ah, enfin, on sait pourquoi vous étiez parti. Vous n'étiez pas parti, en fait, de votre propre gré. Vous étiez parti parce qu'on vous y a obligé. Et puis là, il se libère complètement. Il me raconte ce que j'ai été, ce qu'ont été mes chansons dans leur vie. Apprendre que ça a été d'une importance aussi capitale chez certaines personnes, c'est vraiment émouvant. C'est fabuleux. Je vous montrerai une petite lettre là que j'ai tout à l'heure qui est extraordinaire. Donc les gens sont allés beaucoup plus loin avec le livre, beaucoup plus loin dans les confidences et beaucoup plus loin, ils se sont libérés, quoi. Donc ils m'ont raconté que mes chansons, à certaines époques de leur vie, ça avait été fondamental. Alors quand on se rend compte qu'on a été fondamental dans la vie de certains êtres, de beaucoup d'êtres finalement, et sans, parce que c'est vrai que je savais qu'on aimait bien mes chansons, mais de là à avoir été aussi important, je pensais pas trop que ça puisse exister, quoi. Et maintenant je sais que mes petites chansons, elles sont là peut-être pour rester un certain temps.
Alors, la chanson, en ce moment, vous avez fait un nouveau CD ?
Oui, je suis en train de le recommencer. Dans le livre, j'ai commencé 3 petites chansons, et j'ai en particulier fait If de Kipling, une version de If de Kipling que j'aime beaucoup. Je crois que c'est assez étonnant, d'ailleurs, ça marche. Je l'ai chanté à Montréal, enfin au Québec, seul sur la scène avec la bande orchestre. Enfin, j'avais un orchestre, mais ça, je le fais tout petit comme ça, if, et c'est extraordinaire. Il y a un silence. Ça se fait dans un silence extraordinaire. Les gens connaissent un petit peu, évidemment, If de Kipling, mais chanter comme ça, je sais pas, c'est une ambiance à couper au couteau, quoi.
Alors, une préface de Bernard Hinault qui vous dit « roule ».
Ouais, ça c'était le clin d'œil parce que c'est je suis sportif déjà. Et puis Bernard, c'était la prolongation de mon ami Louison Bobet, qui était aussi un grand champion de qui a gagné 4 ou 5 fois le Tour de France, je crois. Et Bernard aussi. Et puis ça s'est passé comme ça. J'ai dit ouais, oui, pourquoi c'est sain. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais essayer de trouver quelqu'un de plus littéraire. Ce serait peut-être plus prétentieux, tout ça. Je pense que quelqu'un comme Bernard, qui est quelqu'un attaché à sa terre, attaché à sa Bretagne Nord, comme moi je suis attaché à ma Bretagne Sud. C'était formidable de peut-être de lier ça. Donc on lui en a parlé. Et puis il a dit mais bien volontiers, bien sûr.
Alain Barrière, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre livre très attachant et qu'il est très important de lire pour savoir pourquoi vous nous avez un peu oubliés, mais ce n'était pas de votre fait. Donc ce livre, c'est « Ma vie, autobiographie » aux éditions du Rocher. Merci.
Merci à vous.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.